Chapitre 11. Mai 1975. Pour Todd, ce vendredi fut le plus long de sa vie. Un cours après l'autre, assis sans rien entendre. Il n'attendait que les 5 dernières minutes, celles où le professeur sortait son petit paquet de colle pour les distribuer. Chaque fois qu'un professeur s'approchait de son pupitre avec le paquet de cartes, Todd avait des sueurs froides. Chaque fois qu'il ou elle passait sans s'arrêter, il était submergé par des vertiges, presque une crise de nerfs. Le pire, ce fut l'algèbre. Storman s'approcha, hésita, et juste au moment où Todd s'était persuadé qu'il allait le dépasser, posa une PS sur son bureau. Todd la regarda d'un œil froid.
« Eh bien, ça y est, » pensa-t-il. « Point, jeu, set et match. À moins que Doucender ne pense à autre chose. Et j'en doute fort. »
Sans grand intérêt, il retourna la colle pour voir de combien il avait manqué son C. Il ne devait pas s'en falloir de beaucoup. Mais faites confiance à Storman pour ne faire de cadeau à personne. Il vit que la colonne des notes était complètement vide, l'emplacement des lettres et celui des chiffres. Dans la colonne observation, il y avait un message.
« Je suis bien content de ne pas avoir à t'en donner une pour de vrai.
Chas Storman. » Son malaise revint, plus violent cette fois. Un grondement qui lui traversa la tête. Il eut l'impression d'être un ballon gonflé à l'hélium. Todd s'agrippa au pupitre de toutes ses forces, cramponné à une seule idée avec l'énergie du désespoir.
« Tu ne vas pas t'évanouir, pas t'évanouir, pas t'évanouir !»
Peu à peu, les vagues de vertige se calmèrent, et il lui fallut réfréner une envie folle de courir après Storman, de se mettre face à lui et de lui arracher les yeux avec le crayon bien taillé qu'il avait à la main. Pendant ce temps, son visage resta parfaitement vide. Le seul signe qu'il se passait quelque chose en lui était le léger tic qui lui secouait une paupière. Un quart d'heure plus tard, l'école était finie pour la semaine. Todd fit lentement le tour du bâtiment jusqu'au garage à vélo, la tête basse, les poings enfoncés dans les poches, ses livres coincés au creux de son bras droit, sans voir les élèves qui couraient et criaient. Il jeta ses livres sur son porte-bagages, déverrouilla l'antivol de la chouine et s'éloigna. Vers Doucender.
Aujourd'hui, se dit-il. Aujourd'hui, c'est ton jour, vieux.
Ainsi, dit Doucender en versant du bourbon dans sa tasse quand Todd entra dans la cuisine, l'accusé sort du tribunal. Que vous a-t-on dit, prisonnier?
Il portait son peignoir et une paire de chaussettes en laine pelucheuse qui lui montaient à mi-mollet. Il serait facile, se dit Todd, de glisser avec des chaussettes comme ça. Il jeta un œil à la bouteille entamée. Elle en était à 3 doigts de la fin.
Ni D, ni F, ni colle, répondit Todd. J'aurai encore à changer quelques notes en juin, mais seulement les moyennes. Si je continue à travailler, je n'aurai que des A et des B pour le trimestre.
Oh, tu vas continuer, c'est sûr. Nous y veillerons.
Il finit son verre et se resservit.
Il faut fêter ça.
Le vieil homme avait la voix légèrement pâteuse, à peine, mais Todd savait que le vieil enculé était aussi saoul que possible.
Oui, aujourd'hui. Il fallait que ce soit aujourd'hui.
Mais il restait calme.
Fêter la merde au cul,
répondit-il.
Je crains que le livreur n'ait pas encore apporté le caviar et les truffes.
Continua Doucender en l'ignorant.
« On a tellement de mal à se faire servir par les temps qui courent. Quelques biscuits Ritz et un peu de Velvita en attendant. »«
Ok, » dit Todd. « J'en ai rien à foutre. »
Doucender se leva, heurtant la table du genou, ce qui le fit grimacer, et alla jusqu'au frigo dont il sortit le fromage. Puis il prit un couteau dans le tiroir, une assiette dans le buffet et un paquet de biscuits dans la boîte à pain.
Le tout soigneusement imprégné d'acide prussique, dit-il en posant fromage et biscuits sur la table.
Il souriait, et Todd vit qu'une fois de plus, il n'avait pas mis son dentier. Pourtant,
et lui rendit son sourire.
« Quel calme aujourd'hui !»
s'écria Dusander.
« Je m'attendais à ce que tu fasses la roue tout le long du couloir !»
Il vida le fond de la bouteille dans sa tasse, but et claqua des lèvres.
« Je dois encore être sous le coup !»
dit Todd. Il mordit dans un biscuit. Cela faisait longtemps qu'il ne refusait plus ce que le vieux lui offrait à manger. Dusander croyait qu'il y avait une lettre chez un ami. Il n'y en avait pas, bien sûr. Todd avait des amis, mais personne à qui faire confiance à ce point. Il supposait que Dusander s'en doutait depuis longtemps, mais il était sûr qu'il n'irait pas jusqu'au meurtre pour le vérifier.
« De quoi allons-nous parler aujourd'hui ?»
demanda Dusander en finissant la dernière gorgée.
« Je t'accorde un jour de congé, qu'en penses-tu ? Hein ?»
Quand il avait bu, son accent ressortait. Un accent que Todd s'était mis à haïr. Mais aujourd'hui, l'accent lui convenait. Tout lui convenait. Il se sentait parfaitement calme. Il regarda ses mains, les mains qui devraient pousser le vieux. Et elles avaient leur aspect habituel. Elles ne tremblaient pas, elles étaient tranquilles.
« Je m'en fous, » répondit-il. « Comme vous voudrez. »«
Te parlerai-je de ce savon spécial que nous fabriquions ? De nos expériences d'homosexualité forcée ? Ou peut-être préfères-tu savoir comment je me suis échappé de Berlin après avoir fait l'idiotie d'y revenir ? Il s'en est fallu de peu, je te le dis. »
Il fit mine de se raser une joue hérissée de poils, éclata de rire.
« N'importe quoi, » dit Todd. « Vraiment ?»
Il regarda Dusander examiner la bouteille vide et se lever en la tenant d'une main. Le vieil homme alla la jeter dans la corbeille à papier.
« Non, rien de tout cela, je pense. Tu n'as pas l'air d'être d'humeur. »
Il réfléchit un moment près de la corbeille, puis traversa la cuisine jusqu'à la porte de la cave. Ses chaussettes en laine suintaient sur le linoléum irrégulier.
« Aujourd'hui, je crois que je vais plutôt te raconter l'histoire d'un vieil homme qui avait peur. »
Dusander ouvrit la porte de la cave. Il tournait maintenant le dos à la table. Todd se leva sans bruit.
« Il avait peur, » continua Dusander, « d'un certain jeune garçon qui, d'une curieuse façon, était son ami. Un garçon très malin. Sa mère disait que c'était un élève doué, et le vieil homme avait découvert que c'était effectivement un élève doué, mais peut-être autrement que sa mère le pensait. »
Dusander tribota le vieil interrupteur fixé au mur, essayant de le tourner de ses doigts raides et maladroits. Todd avança, glissa quasiment sur le linoléum, évitant les endroits où il pouvait grincer ou craquer. Il connaissait cette cuisine aussi bien que la sienne, maintenant. Peut-être mieux.
Au début, le garçon n'était pas l'ami du vieil homme.
Dusander réussit enfin à tourner l'interrupteur. Il descendit la première marche avec la prudence d'un ivrogne expérimenté.
Au début, le vieil homme détesta considérablement le gamin. Puis il se mit à prendre plaisir à sa compagnie, tout en continuant à le détester.
Il avait levé les yeux vers l'étagère, mais se tenait toujours à la rampe. Todd, calme, non, glacé maintenant, arriva derrière lui, se demandant s'il pourrait pousser assez fort pour lui faire lâcher prise. Il préféra attendre que Dusander se penche en avant.
Le plaisir du vieil homme venait en partie d'un sentiment d'égalité,
continua Dusander d'un ton pensif.
Vois-tu, le gamin et le vieil homme se tenaient l'un l'autre à la gorge. Chacun savait quelque chose que l'autre voulait garder secret. Alors il devint évident pour le vieil homme que les choses changeaient. Oui. Il perdait son emprise sur le garçon, en partie ou complètement, selon le degré de désespoir du garçon et son intelligence. Au cours d'une longue nuit sans sommeil, il lui vint à l'esprit qu'il faudrait mieux pour lui prendre une nouvelle emprise sur le gamin, pour sa sécurité. »
À ce moment, Doucendeur lâcha la rampe et se pencha au-dessus des marches abruptes. Mais Todd ne fit pas un geste. Le froid qui lui glaçait les os fondait peu à peu, et à la place, la colère et la honte lui colorèrent les joues. Quand Doucendeur attrapa sa bouteille, Todd se dit méchamment que le vieux avait la cave la plus malodorante de la ville, huile ou pas huile. On aurait dit qu'il y avait un mort là-dedans.
Alors le vieil homme se leva du lit sans plus attendre. Qu'est-ce que le sommeil pour un vieil homme ? Pas grand-chose. Et il s'installa à son petit bureau, pensant à l'astuce avec laquelle il avait empêtré le gamin dans les crimes qu'il tenait suspendus au-dessus de sa tête. Se souvenant à quel point le gamin avait travaillé dur, très dur, pour faire remonter ses notes, et de ce que, une fois ce point réglé, le gamin n'aurait plus besoin que le vieil homme reste en vie, et que si le vieil homme mourait, le gamin serait libre.
Il se retourna enfin, une bouteille pleine à la main.
« Je t'ai entendu, tu sais, » dit-il, presque avec douceur, « dès que tu as repoussé ta chaise pour te lever. Tu n'es pas aussi silencieux que tu crois, gamin. Pas encore, en tout cas. »
Todd ne dit rien.
« Donc !»
s'exclama Doucendeur, tandis qu'il rentrait dans la cuisine et repoussait fermement la porte de la cave.
« Le vieil homme a tout noté, Nichtwahr. Il a tout mis noir sur blanc, du premier au dernier mot. Quand il a fini par en venir à bout, c'était presque le matin, et son arthrite lui brûlait la main. Cette verdammte arthrite. Mais il se sentait bien, pour la première fois depuis des mois. Il se sentait à l'abri. Il se remit au lit et dormit jusqu'au milieu de l'après-midi. En fait, s'il avait dormi plus longtemps, il aurait manqué son feuilleton favori. Hôpital général.
Doucendeur regagna son fauteuil à bascule, s'y installa, sortit un vieux canif à manche d'ivoire et se mit à découper soigneusement le capuchon qui scellait la bouteille de bourbon.
Le lendemain, le vieil homme mit son plus beau costume et se rendit à la banque où il avait son petit compte chèque et ses économies. Il s'adressa à l'un des employés, lequel répondit de façon très satisfaisante à toutes ses questions. Il commença par louer un coffre. L'employé expliqua au vieil homme qu'il aurait une clé et que la banque en aurait une autre. Pour ouvrir le coffre, il faudra les deux clés. Personne d'autre que le vieil homme ne pourra utiliser sa clé sans une autorisation devant notaire signée par le vieil homme en personne. À une exception près.
Doucendeur eut un sourire édenté devant le visage pâle et crispé du garçon.
« Cette exception est prévue en cas de décès du locataire du coffre. »
Toujours en regardant Todd, toujours en souriant, Doucendeur remit le canif dans la poche de son peignoir, dévissa le bouchon de la bouteille et remplit à nouveau sa tasse.
« Qu'est-ce qui se passe alors ?»
demanda Todd d'une voix rauque.
Alors, le coffre est ouvert en présence d'un employé de la banque et d'un représentant du trésor. On fait l'inventaire du contenu. Dans ce cas, ils n'y trouveront qu'une douzaine de pages manuscrites. Non imposables, mais extrêmement intéressantes.
Les mains de Todd rampèrent l'une vers l'autre, s'agrippèrent nerveusement.
Vous ne pouvez pas faire ça,
dit-il d'un ton choqué, incrédule. La voix de celui qui verrait quelqu'un marcher au plafond.
« Vous ne pouvez pas faire ça !»«
Mon garçon, » dit gentiment Doucendeur, « je l'ai fait. »«
Mais je... vous... »
Soudain, sa voix s'éleva en un hurlement d'angoisse.
« Vous êtes vieux! Vous ne savez pas que vous êtes vieux! Vous pouvez mourir! Vous pouvez mourir n'importe quand !»
Doucendeur se leva et alla prendre un petit verre dans un placard. Un verre qui avait jadis contenu de la confiture, avec des personnages de dessins animés en train de danser autour du bord. Todd les connaissait tous. Fred et Wilma Flintstone, Barney et Betty Rubble, Pebbles et Bam Bam. Il avait grandi avec eux. Il regarda Doucendeur essuyer le verre avec un torchon, presque cérémonieux. Il regarda Doucendeur y verser un doigt de bourbon.
« Pourquoi faire ?» marmonna Todd. « Je ne bois pas. C'est bon pour les pauvres clodos comme vous. »«
Lève ton verre, gamin. C'est une occasion spéciale. Aujourd'hui, tu bois. »
Todd le fixa longuement, puis leva son verre. Doucendeur le heurta gaiement avec sa tasse en faïence bon marché.
« Portons un toast, gamin. Longue vie. Longue vie à nous deux.
Prosit. »
Il vida son bourbon d'un trait et se mit à rire, se balançant d'avant en arrière, ses chaussettes claquant sur le linoléum. Il riait. Todd pensa qu'il n'avait jamais tant ressemblé à un vautour en peignoir de bain, un répugnant charognard.
« Je vous hais, »
murmura-t-il, et Doucendeur manqua s'étrangler tout en riant. Son visage devint couleur brique, et on aurait dit qu'il toussait, riait et étouffait tout à la fois. Todd, effrayé, se leva aussitôt et lui tapa dans le dos jusqu'à ce que la quinte fût passée.
« Dankeschön, » dit-il. « Bois ton verre, cela te fera du bien. »
Todd obéit. Le bourbon avait un goût infect de sirop pour la toux et alluma un feu dans ses entrailles.
« Je n'arrive pas à croire que vous puissiez boire cette merde toute la journée, » dit-il en frissonnant.
Il reposa le verre sur la table.
« Vous devriez arrêter. Arrêter de boire et de fumer. »
« Ton souci de ma santé est très touchant. »
Doucendeur sortit un paquet de cigarettes froissées de la poche où avait disparu le canif.
« Et je suis tout aussi soucieux de ton bien-être, mon garçon. Je lis presque chaque jour dans le journal qu'un cycliste s'est fait tuer à un carrefour. Tu devrais arrêter. Tu devrais marcher. Ou prendre le bus, comme moi.
« Allez vous faire enculer !»
s'écria Todd.
Mon garçon,
répondit le vieil homme en se reversant du bourbon et en recommençant à rire.
Nous nous enculons l'un l'autre. Tu ne le savais pas.
Une semaine plus tard, environ, Todd était assis sur un quai désaffecté de l'ancienne gare, en train de lancer des morceaux de mâche-fer au travers des rails rouillés et envahis par les mauvaises herbes.
Pourquoi ne pas le tuer de toute façon ?
Parce qu'il avait un esprit logique, vint logiquement la réponse. Il n'y avait aucune raison. Tôt ou tard, Doucendeur allait mourir. Et plus tôt que tard, étant donné ses habitudes. Qu'il assassine Doucendeur ou que le vieux meure d'une crise cardiaque dans sa baignoire, tout serait dévoilé. Il pourrait au moins avoir le plaisir de tordre le cou du vieux vautour. Tôt ou tard. Cette phrase résistait à la logique.
« Ce sera peut-être tard, » pensait Todd. « Cigarette ou pas, gnôle ou pas, ce vieux salopard est costaud. Il a duré jusqu'à maintenant, alors c'est peut-être pour plus tard. »
Il entendit, en dessous de lui, un vague ronflement. Todd sauta sur ses pieds, lâchant sa poignée de mâche-fer. Le ronflement se répéta. Il se figea, prêt à courir, mais le bruit ne revint pas. À 900 mètres, une autoroute à 8 voies barrait l'horizon de ce cul-de-sac plein d'ordures et de mauvaises herbes, peuplé de baraques abandonnées, de barrières rouillées et de quais en bois gondolés, remplis d'échardes. Là-haut, sur l'autoroute, les voitures brillaient comme des scarabées exotiques aux carapaces vernies. 8 voies pleines de voitures, et ici, rien que Todd, quelques oiseaux, et la chose qui avait ronflé. Il se mit à 4 pattes, prudemment, et regarda sous le quai abandonné. Il y avait un ivrogne allongé au milieu des herbes jaunies, des boîtes vides et des vieilles bouteilles sales. Impossible de dire son âge. Todd lui donnait entre 30 et 300 ans. Il portait un lambeau de t-shirt amidonné par du vomi séché, un pantalon vert trop grand pour lui et des chaussures d'ouvrier en cuir gris et crevassé. Les fentes bâillaient comme des cris de souffrance.
Todd pensa qu'il avait la même odeur que la cave du vieux. Les yeux injectés de sang du clochard s'ouvrirent lentement, fixant Todd d'un regard trouble, dénué d'étonnement. Le garçon pensa au couteau suisse qu'il avait dans sa poche, le modèle Angler. Il l'avait acheté presque un an avant dans une boutique de sport sur la plage de Redondo. Il entendait encore l'employé qui s'était occupé de lui.
« Tu ne pourrais pas choisir un meilleur couteau, fiston.
Un couteau comme celui-là pourra te sauver la vie un jour. Nous vendons 1500 couteaux suisses bon an, mal an. »
1500 par an. Il mit la main dans sa poche et agrippa le couteau. En esprit, il revoyait le canif de Doucendeur tourner lentement autour du goulot de la bouteille de bourbon, découpant la capsule. L'instant d'après, il s'aperçut qu'il avait une érection. Une terreur froide l'envahit. L'ivrogne passa une main sur ses lèvres craquelées, puis les lécha avec une langue que la nicotine avait colorée à jamais d'un jaune sinistre.
« T'as 10 cents, le gosse ?»
Todd le regarda, impassible.
« Faut que j'aille à L.A. Besoin de 10 cents de plus pour le bus. J'ai un rendez-vous, moi. Une proposition de boulot. Un chouette gosse comme toi doit bien avoir 10 cents. Peut-être même 25. »
Oui, monsieur. Vous pourriez vider un bon dieu de brochet avec un couteau comme celui-là. Bon dieu, vous pourriez vider un de ces foutus requins s'il le fallait. Nous en vendons 1500 par an. En Amérique, toutes les boutiques de sport et tous les surplus de l'armée et de la marine en vendent. Et si vous choisissez de vous en servir pour nettoyer un vieil ivrogne crasseux et merdeux, personne ne pourrait monter jusqu'à vous. Absolument personne.
Le clodo baissa la voix, qui devint un murmure confidentiel, ténébreux.
Pour une tine, je te suce. Tu trouveras pas mieux. Tu te feras gicler le cerveau, gosse.
Todd sortit sa main de sa poche. Avant de l'ouvrir, il n'était pas sûr de ce qu'il y avait dedans. 2 quarters. 2 nickels. 10 cents. Quelques sous. Il les lança au clochard et s'enfuit.